Bonsoir. Ce mardi 16 avril, la ville de Beni dans la province du Nord-Kivu est paralysée par une journée ville morte décrétée par des groupes d'oppression et des mouvements citoyens. Cette mobilisation vise à dénoncer la multiplication des attaques perpétrées par les EDF dans les quartiers Sayo, Kasangatua et la commune rurale de Mangina. Une quarantaine de civils ont été tués en moins de 3 semaines par les rebelles EDF dans la ville de Beni. La dernière attaque de ces assaillants remonte à vendredi dernier où 15 personnes, dont 6 femmes, ont été tuées au quartier Sayo. Selon des sources locales, ces rebelles sèment terreur et désolation dans la ville et dans le territoire de Beni, alors que cela faisait plusieurs mois qu'une accalmie était observée dans la région. La société civile de Beni dénonce ces nouveaux massacres et exige des opérations militaires d'envergure contre ces rebelles. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Arsène Mouaka, député national, élu de Beni Territoire. Il est cadre du parti politique DCFN, parti membre de la majorité au pouvoir. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir.
Bonsoir.
Omar Kalissia, président de la coordination provinciale de la société civile du territoire de Beni au Nord Kivu. Omar Kalissia, bonsoir. Omar Kalissia, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir. Je pense qu'on a un petit souci avec sa ligne. Non, il est là. Mais on a un petit souci avec sa ligne téléphonique. Aussi avec nous dans ce débat, Achille Kiapanga, avocat, il est analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Monsieur Kiapanga, bonsoir.
Merci, madame.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Gabriel Ekwalanga, Bukavu Sud Kivu. Nous compatissons avec la population de Beni dans cette situation qu'elle est en train de traverser actuellement. Mais pour que cette situation, des tueries en masse perpétrées par les EDF Nalu, nous pensons que cela est consécutif au relâchement qu'on a observé auprès des autorités politiques et militaires de notre pays. Le gouvernement a fixé tout son intérêt sur la guerre du M23, tout en ignorant qu'il y a un autre ennemi redoutable à combattre, qui est l'EDF. À Beni Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokepi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube, sans oublier le compte Twitter des radios Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, une vive tension est observée ce matin dans certains quartiers de la ville de Beni, où des jeunes encadrés par un mouvement de pression ont érigé des barricades. Ils protestaient contre la multiplication des attaques des rebelles EDF dans la région de Beni. Sadiki Aboubakar pour le reportage.
Boutiques, magasins, petits commerces sont restés fermés ce mardi matin à Beni. Au marché central de Kilokwa, les étalages étaient vides et toutes les boutiques également fermées. Des manifestants, à majorité des jeunes enfants habillés en uniforme scolaire, ont érigé des barricades dans plusieurs rues et avenues des communes de Bungulu et Mulekera. C'est le cas de quartier Ngongolio, Boutili et Makampagne. Dans certains coins de la ville, la police est intervenue pour rétablir l'ordre public. En revanche, dans la partie ouest de la ville, aucune présence des forces de l'ordre n'était visible. Des sources sécuritaires ont affirmé que la police n'est disposée ni des véhicules, ni des carburants pour être sur le terrain et faire face à la situation sécuritaire dans la ville. Rappelons que lundi, des groupes de pression et des mouvements dits citoyens de Beni ont appelé à 2 journées ville morte. C'est pour, disent-ils, protester contre la multiplication des attaques des rebelles des ADF dans les quartiers Sayo, Kasangatua et la commune rurale de Mangina. C'est midi, le calme est revenu dans la ville où la circulation et les activités socio-économiques ont repris. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Je l'ai dit dans mon introduction, dans la ville de Beni, une quarantaine de civils tués en l'espace de 3 semaines par les rebelles EDF. La dernière attaque survenue vendredi dernier a fait 15 morts, dont 6 femmes, au quartier Sayo et au centre de la ville. Des voix s'élèvent pour réclamer des opérations militaires d'envergure pour enrayer cette vague de tueries dans cette région qui connaît malheureusement un regain d'activisme de ces rebelles. Le point avec Marc Varofimo.
Mangina, Mavivi, Sayo, Bunji, Matembo, Mutube, Kasangatuha, depuis 3 semaines, les rebelles des EDF sèment terreur et désolation dans la ville et territoire de Beni au nord Kivu. Alors que cela faisait plusieurs mois qu'une accalmie était observée dans la région et contrairement à leurs habitudes pendant les mois de Ramadan, les rebelles des EDF ont renoué avec les attaques causant des dizaines de morts. Le 4 mars dernier, 5 civils ont été tués à Mangina où des dizaines de maisons de commerce ont également été incendiées. À Mavivi, la semaine dernière, 9 civils ont été tués dans la forêt de Mutube. Plus récemment à Sayo et Kasangatuha dans la ville de Beni, 15 civils ont été sauvagement tués, dont 6 femmes. La société civile dénonce ces nouveaux massacres d'innocents et exige des opérations militaires d'envergure contre ces rebelles. Maître Pepe Kavota est le président de la société civile, coordination urbaine de Beniville.
Il est urgent que les autorités à tous les niveaux et surtout celles de l'état de siège doivent s'activer pour mettre fin à cette barbarie.
De son côté, l'armée appelle la population à bien canaliser les alertes et d'éviter de tout mettre sur les réseaux sociaux car infiltrés par l'ennemi. Pendant ce temps, des voix se lèvent afin que les opérations conjointes FRDC et PDF soient élargies dans cette partie ouest de la ville et territoire de Beni sous menace permanente des rebelles des EDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Merci Marc Maro pour ce reportage. Professeur Arsène Mouaka, député national, élu de Beni Territoire, vous êtes cadre du parti politique DCFN, c'est un parti membre de la majorité au pouvoir, une quarantaine de civils tués en moins de trois semaines, je dirais même. Et ce sont les rebelles EDF qui sont pointés du doigt, alors qu'il y a quelques semaines, il y avait comme une sorte d'accalmie au niveau de Beni. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regain d'activisme des rebelles EDF?
Oui, la première des choses, c'est de pouvoir m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui viennent de nous quitter. C'est des morts de trop, des morts qui auraient pu être évitées si on avait gardé en tête qu'on était en opération militaire. Et je voudrais vraiment déplorer ces morts, puisque les rayons dont on parle, c'est un petit rayon. C'est un rayon qui va d'une localité à une autre, ainsi de suite, et c'est maîtrisable. Et c'est un rayon qui est à la limite entre la ville et le territoire de Beni. Comment subitement ça commence alors que depuis plus d'une année, on n'avait plus connu ça dans la ville particulièrement? C'est dommage, puisque le plus souvent, quand l'EDF est attaqué, il est pratiquement chassé vers un coin, chassé d'un coin vers un autre. Et généralement, il n'y a pas une opération totale qui fait que l'EDF est chassé jusqu'à son dernier retranchement. Quand les amis de l'Ouganda, avec notre armée, les FRDC, ont décidé de mener des opérations conjointes, ils ont chassé ces rebelles de la partie est de la ville, de la partie est du territoire de Beni. Et la plupart de ces rebelles se sont réfugiés dans la province de l'Ituri. C'est à ce moment que l'Ituri connaît aussi ce phénomène, puisqu'ils ont fui vers là-bas. Et certains, et la population avait cessé de dénoncer, nous-mêmes nous avons dénoncé, qu'ils s'orientaient vers l'ouest de la ville, qui n'avait pas pratiquement des positions militaires consistantes. Et donc, c'était comme pour dire qu'ils ne pouvaient pas arriver là-bas. Et aujourd'hui, on y est. Moi, je semble croire que c'est une reconstitution de tous ces groupes qui ont pu s'échapper, aller de gauche à droite, ou alors des groupes qui proviennent de l'Ituri, dans la partie d'Endalia et autres, où ces rebelles demeurent présents. Et donc, c'est déplorable, mais je pense que l'armée est en train de faire l'essentiel. Nous ne sommes pas autorisés à ce micro de dire ce qui est en train de se faire. Nous savons aussi ce qui est en train de se faire.
Mais est-ce qu'il y a des opérations qui se font sur place? Des opérations de grande envergure, comme demande la société civile?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle opération et qu'est-ce qu'on appelle opération de grande envergure, mais cela appartient à l'armée. Et généralement, quand il s'agit de mettre en œuvre une armée, les civils ne sont pas autorisés à en discuter. Mais comme député national, nous avons mené des démarches pour que finalement, qu'on parte des petites positions de notre armée qui étaient là, qu'on les renforce sérieusement et qu'on les renforce au-delà de ce qu'on peut dire à ces micros. Et je pense que le travail est en train d'être fait, même si il y a une exaspération et une impatience de la part de la population, puisque la plupart de ceux qui ont fui la partie est du pays ont trouvé refuge à l'ouest. Et la plupart ont même vendu leurs parcelles à l'est de la ville pour aller acheter les parcelles à l'ouest de la ville. D'où maintenant ils sont attaqués. Et c'est même là le grenier, c'est là où les gens pouvaient encore avoir à manger, et ainsi de suite. Et donc nous espérons que très rapidement, l'armée va faire son travail.
Mais la population dénonce le fait qu'elle fait des alertes, mais aucune disposition n'est prise pour empêcher ces massacres.
Oui, je me suis exprimé sur les médias locaux dans le même sens pour dire qu'il était inacceptable qu'on laisse les gens mourir et que les rebelles se promènent la journée, je dis bien la journée, c'est-à-dire à 10h, à 14h, à 16h, se promènent en train de distribuer la mort d'une localité à une autre sans qu'ils ne soient inquiétés. C'est ce qui s'est passé vendredi. Ils ont commencé à tuer à partir de 14h. Jusqu'à 19h. Et donc, c'est inadmissible. Je pense qu'on ne va plus assister à des choses comme ça. On espère que les autorités de l'armée et les autres autorités politiques sont en train de nous suivre, qui ont le pouvoir d'action pour agir. Puisqu'on n'est pas face d'une armée terrible. Les témoignages de la population rapportent qu'il s'agit des groupes d'une centaine déjà, avec des femmes, des enfants et quelques hommes armés, mais qui pratiquement distribuent la mort aisément, sans qu'ils ne soient inquiétés. Et c'est ce que la population dénonce et nous les rapportons aussi.
Mais ce
aussi.
Groupe vit au sein de la population, dans la population.
Non. La partie dans laquelle on se trouve, c'est une partie des plantations de cacao, de café, des champs. Et c'est des parties, quand on est dans une ville comme Kinshasa, qu'on ne peut pas comprendre, puisque dans la tradition de Beni, on vit entouré de sa nourriture, quand on est dans la partie périurbaine. On vit entouré de sa bouffe, donc c'est autour des bananeraies qu'on est, autour du café, de canne à sucre, ainsi de suite. Et donc, on n'est pas dans une partie où on dirait non, il y a une complicité locale. Non, il n'y en a pas. Ces gens sont dans des champs, dans des brousses, et finalement, ils font incursion chaque fois dans des agglomérations, dans les localités de la périphérie de Beni pour tuer. Mais nous sommes dans des quartiers de la ville. C'est comme quelqu'un se trouverait à Mongafula, il est à Kimbondo, ou il est, je ne sais pas, à Riflar, et il est tué. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici des gens qui viennent tuer à Matongé, mais c'est des gens qui tuent à Mapela, et ainsi de suite.
Merci. Omar Kalissia, président de la coordination provinciale de la société civile du territoire de Beni, au Nord Kivu. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Il y a quelques semaines, ça faisait plusieurs mois, qu'une accalmie était observée dans la région et subitement les EDF ressurgissent et commencent à massacrer la population, une quarantaine de civils tués en l'espace de 3 semaines, c'est trop.
Bien merci. Je présente d'abord ma compassion à toutes les familles victimes. Donc, je remercie les co-débatteurs, notamment le professeur Chancel Mokanot Honorable, le maître Rachim Kapanga. Mais toutefois, avant que j'intervienne, il arrive des fois qu'à notre niveau, on se souligne de votre
studio de journalisme. On vous suit très, très difficilement. On vous suit difficilement. La réalisation va essayer de vous rappeler. On va essayer de vous rappeler sous la ligne normal, Monsieur Omar Kalissia. Alors, Achille Kapanga, vous êtes avec nous dans ce débat comme analyste indépendant et expert dans le domaine de la sécurité. Je souligne aussi que vous êtes avocat. Vous avez suivi les reportages de nos collègues des Beni, la population qui est massacrée, que ce soit la journée ou la nuit par les EDF. Alors qu'il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, on a observé une accalmie dans cette partie de la République. Comment on peut expliquer ce phénomène?
Bon, en fait, madame, merci d'abord pour ce témoin que vous accordez. Je souhaite saluer l'honorable Arsène Mouaka comme fils noir que vous, compassion et non seulement aux victimes de Béni, mais toutes les victimes qu'on voit à travers la province, même toute la RDC. Vous savez, on parle souvent de Béni territoire. On se dit d'abord ces deux liens-là. Vous savez que Béniville, c'est comme un sous-ensemble de Béni territoire. Donc Béniville est au centre de Béni territoire. Alors, quand il y a une action qui se fait en territoire, ça a des faits directement en ville. Il y a des milliers qui sont directement touchés par la ville et le territoire. D'ailleurs, aujourd'hui, en ville et territoire, il y a des milliers où tu ne peux pas différencier tel de la ville, tel du territoire. Ce sont des milliers qui se touchent. Ce qui se fait aujourd'hui à Béni, à ville tout comme à territoire, ça inquiète, madame. Pourquoi ça inquiète? Parce que on ne peut pas quand même donner chaque fois des excuses à notre armée, non. L'armée a toujours dit qu'elle a affaire à des terroristes. Nous disons c'est bon. Mais pourquoi on est allé former les antiterreaux? Notre armée a aussi des spécialistes en cette matière. Parce que pendant 10 ans, ce n'est pas quand même concevable qu'on vive toujours les mêmes scénarios, alors qu'on a formé des antiterreaux. À quoi ça sert? Et la population alerte régulièrement que nos personnes les ont vus telle part. Mais ça prend du temps. Il faut attendre qu'il y ait 50% victimes pour qu'on agisse. Je pense non. Même un Congolais a aussi droit de protection comme tous les milliers de Congolais. Voilà pourquoi ma première perception était celle-ci. Que d'abord l'armée comprenne que le peuple qui joue son rôle d'informer et de payer les impôts a aussi droit à cette protection qui est constitutionnelle. On ne peut pas continuer à massacrer la population innocemment. Ces gens-là qui meurent, vous posez la question, qu'ont-ils fait? Pourquoi on les tue? C'est ça la grande question qu'on se pose. Aujourd'hui, dès ici, dès là-bas, dès partout là-bas. Pourquoi tout cela arrive? Et l'armée attaque quoi pour qu'on puisse arrêter ça? Pendant 10 ans, voilà, on vit cette même situation. Alors, pour répondre à ce qui se passe aujourd'hui, comme on est dans la situation de la ville morte à Béni, pourquoi les gens doivent faire des journées de ville morte, par exemple? Madame, ce sont des... Nous sommes les Africains, quand il y a deuil, on doit organiser le deuil. Mais comme on ne saura pas aller dans tout le deuil à la fois, voilà pourquoi le peuple se dit non, non, aujourd'hui, on ne va pas travailler, on est en train de pleurer les morts. Mais c'est aussi une occasion d'interpeller les autorités, que cette fois-ci, mettons fin à cette histoire. Voilà pourquoi, au vu de la situation qui se vit actuellement sur le terrain, j'ai suivi l'honorable assermenté qui a dit qu'il y a des opérations qui se font. Ce n'est pas la première fois que nous parlions d'opérations. Et là, on est en train aussi de s'allier tous les soldats là qui sont tombés sur les champs de bataille, parce que là aussi, nos militaires meurent, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont morts. Avec autant de trahisons, autant de régularités que nous trouvons dans les chaînes de commandement, ça fait aussi mal. Voilà pourquoi, moi, pour être clair et précis, je pensais qu'il fallait d'abord dire les causes réelles. Pourquoi cette guerre d'agression? Pourquoi ont-ils déjà béni? Pourquoi il y a des situations qu'on dénonce au sein de l'armée, mais l'auditorat semble ne pas directement agir? Il faut commencer par d'abord décourager les causes là. Si nous sommes seulement en train de combattre les conséquences, alors qu'on n'a pas touché les causes, on ne fera rien. Aujourd'hui, on peut faire les opérations de canard à virgule, on va peut-être les éloigner encore de la ville, mais ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Donc moi, je pense que c'est d'abord une question d'abord de prise de conscience à tous les niveaux. Le chef d'état-major général, je l'ai suivi hier dans une parade, il a encore interpellé les militaires dans leur mission, mais ça ne suffit pas. Nous voulons voir la réalité sur le terrain. On peut bien parler. Et là, j'insiste beaucoup. La lecture, souvent, de la situation sur le terrain et celle de Kinshasa, il y a une différence, madame. Des fois, les rapports viennent, mais vous allez trouver que certains officiers qui ont des intérêts dans les opérations, ils ne disent pas la vérité au haut commandement. Et dans ce flou-là, le peuple continue à souffrir. Donc, voilà pourquoi j'encourage la société civile et surtout la radio qui nous toujours accompagner pour qu'on puisse dire certaines choses clairement.
Aussi longtemps qu'on est-ce que vous pensez qu'il y aurait une certaine complicité entre ces EDF et certains officiers au niveau de l'armée, au sein de l'armée?
Pas seulement avec certains officiers, madame, mais aussi même avec certains affaires du milieu. Parce que quand il y a des condamnations, il y a des procès qui sont en cours, vous voyez, un officier qui a vendu les armes à l'ennemi, un officier qui a fait ça à l'ennemi, mais comment vous voulez réussir la guerre de telle certitude? Il n'y a pas moyen. Quoi que vous soyez un beau guerrier, mais quel est déjà trahison, ça ne tiendra pas. Et là aussi, nous sommes en train de parler de la question Azalendo. Puisque aujourd'hui, maintenant, on n'est pas le plus Maïmaï. Tout le monde qui était Maïmaï est devenu Muzalendo. On ne sait pas qui est vrai Muzalendo, qui ne l'est pas. Avec le coup de cacao qui a galopé, maintenant, les gens en profitent. Les gens en profitent
Et tout le monde maintenant veut en profiter. On n'est pas cette confusion-là. J'interpelle les services de renseignement de l'armée.
Tout le monde est dans le commerce du cacao maintenant.
C'est ce que j'ai suivi un arrêté que le gouvernement a pris. J'ai enregistré cet arrêté que le gouvernement de la province de Nouvelle-Kivu a pris pour essayer un peu de recadrer cet état de choses. Ça n'allait pas. Vous avez trouvé un officier militaire qui est dans les opérations de cacao, les autorités locales, même chose. Ça crée une confusion. Devant tout ça, l'ennemi ne peut qu'en profiter. Et les jeunes qu'on utilise, avec le groupe de pression qui sont comme aussi les groupes armés, vous allez voir là, il y a beaucoup. Tous ces jeunes-là, Dranda Mouchanga, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela, Sangabalen, bon, il faut quoi exactement? Quelle est leur activité principale? Qui en a-t-il leur suivi? Voilà pourquoi je voulais toujours interpeller les services de renseignement qui sont là, au niveau même des bureaux des consorts. Vous verrez un bureau de l'armée qui est beaucoup plus une question civile, alors qu'il y a des questions importantes militaires dans lesquelles il doit mettre son nez. Mais sur les questions civiles, armées de confiance, là où les gens sont allés, presque même innocemment, alors que les grandes questions sont là. Donc c'est une question d'abord de prise de conscience, de se dire que non, non, la guerre est devant nous, comportons-nous comment devant cette guerre.
Merci Achille Kapangom, M. Niel Komar Kalicia est en ligne. Est-ce que vous êtes là, Omar Kalicia?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, ça s'est amélioré. Vous étiez en train de donner de faire votre lecture par rapport à la situation que traverse Béni aujourd'hui avec cet activisme des rebelles EDF.
Oui, je disais que je présente d'abord ma compassion à toutes les familles victimes dans la région Béni. Et au même moment, j'ai salué les co-débatteurs, honorable Aferne Mwaka, maître Achille Kapanga. Mais à l'occasion aussi, je voulais dire aux journalistes, commençant par la radio Okapi, le fait de montrer le nombre de morts chez nous, aussi ça fait de cœur. Parce que nous sommes déjà dans les plus de 60 personnes sauvagement abattues. Quand la radio réduit à 40, ça fait mal. Quand vous parlez de l'accalmie et que nous encore observé, ou soit vous dites l'accalmie, c'est par rapport à des espaces. Et tout en saluant les interventions de mes deux co-débatteurs, l'honorable Arsène Mwaka qui vient de nous parler la question de l'Est à l'Ouest. Et c'est là où que je vais marteler, et plus renforcer, et de dire à quoi ça peut poser un problème, où la résolution, même si elle est palliative, peut-être à notre niveau civil, a produit quand même des résultats, où il y a des opérations qui se déroulent au niveau de l'Est, mais on ne veut pas que ça se déroule au niveau de l'Ouest. Et c'est là où je ne voulais pas aussi que l'honorable puisse dire que nous, la société civile, nous dénonçons. Non, honorable, nous l'avons fait, le choix là qui vous a porté là-bas, ce n'est pas par aller dénoncer. Je sais que vous connaissez très bien d'ailleurs, comme mon enseignant, ce que vous devrez faire. Et c'est ça notre attente. La préoccupation qui il est toujours problématique chez nous. Il n'y a pas trop de philosophie. C'est la question de comprendre.
C'est quoi la situation? Vous qui êtes sur place, vous êtes mieux placé pour nous décrire ce qui se passe exactement à Béni.
C'est celle que l'honorable a parlé. Les opérations se déroulent de l'ennemi de localité à localité. Et c'est une trajectoire directe, ligne droite. Et nous, notre compréhension civile, on s'est toujours dit, armée, gouvernement, nous sommes derrière vous. Certes, que même s'il y a des messages qui se passent par raisons sociaux, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a toujours l'habitude de les dénoncer. Mais qu'est-ce que nous avons fait plus pour que ça ne soit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux et que l'ennemi a profité et que nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'ennemi n'en profite pas ou bien s'il profite pour le déjouer? S'ils estiment qu'on n'a pas encore fait ça, ils pensent qu'on devrait encore faire quoi, même pas si ce n'est pas sur média. Nous sommes ici et on attend toujours. Mais nous, à notre niveau, nous sommes en train de voir qu'il y a des trêves dans des opérations. Et à part des trêves dans des opérations, il y a tout ce qui se dit des circuits, même si ça peut commencer, ou bien ça peut débuter, ou bien ça peut finir. par la population, l'armée, mais la question, il faut qu'on se... Parce que à l'allure où nous voyons des opérations qui se passent dans notre entité, territoire, ville et l'espace zone de Beni, il faut se dire franc et faire un bon rapport au président de la République, aux autorités, aux ministres de la Défense. Le rapport se dure, il faut qu'on déclasse des opérations de grande envergure. Tous les ennemis qui sont en train de se débalader dans la zone, surtout ouest actuellement, ils doivent être finis même à un peu de temps. S'il s'observe tout ce que nous sommes en train d'écouter, même si on n'est pas sur le terrain dans le Petit Nord ou appelément Grand Sud, les mêmes efforts qui sont fournis là-bas, ils ne sont pas dans notre entité, mais ils y étaient à un moment donné et où il y avait un résultat.
Est-ce que vous voulez dire qu'au moment où nous parlons, il n'y a plus d'opérations qui se font à Beni?
Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'opérations, c'est trop fort, mais il y a des trêves qui s'observent sur les champs. Parce que il n'y a que l'ennemi qui nous fait preuve qu'il existe, et c'est là que l'armée réagit. Et est-ce que maintenant la question, est-ce que l'armée réagit au quotidien ou bien après qu'avoir chassé, pourchassé l'ennemi, mais il le pourchasse territoire de Beni ou bien dans l'espace Congo et le laisser peut-être aérer loin de là où il l'a pourchassé.
Merci Omar Kalicia. Je crois que le problème continue avec votre ligne téléphonique. Voilà, on va poursuivre l'émission. On va prendre ces auditeurs qui appellent, qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre dans le Kasaï central pour écouter Corneille Moubabingé.
Corneille Moubabingé à Kananga, au Kasaï central. Les autorités du pays ne doivent pas attendre les tueries pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de Nord-Kivu. Étant donné que la province elle-même est sous l'état de siège, cette ville morte est un signal fort de la population aux autorités du pays, ce qui veut dire que trop c'est trop avec les tueries dans cette province. Étant donné que elle-même la province est sous l'état de siège. Les autorités du pays ou l'État congolais a le droit de sécuriser la population à tous les moments. Il faut à mon niveau traiter les ADF au même moment que les M23 et les traquer aussi de la même manière au lieu de déplorer à tout moment les morts dans cette province.
Professeur Arsène Mouaka.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Corneille. Je pense que qui veut la paix prépare la guerre. Et l'attitude qui consiste à attendre que les gens soient tués pour qu'on puisse réagir constitue une attitude suicidaire. Et cela n'est pas à l'avantage du gouvernement, et j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, ça va être différent. Mais sinon, parmi les problèmes, c'est que c'est après action qu'on réagit. Mais malheureusement, quand on réagit, c'est des vies humaines. C'est pas la même chose avec la guerre du M23, c'est-à-dire avec le M23, on est en train de conquérir les territoires. C'est vrai qu'il peut y avoir des morts, mais ici, on est dans des violences qui ont pour cible seulement la population, et la population qui ne peut pas se défendre.
Alors, vous dénoncez, vous avez suivi la société civile qui dit que ce n'est pas votre rôle de dénoncer. Vous savez pourquoi vous avez été élu. La population dénonce, vous aussi député, vous dénoncez. Quelles actions vous faites, vous prenez ici à Kinshasa pour pousser le gouvernement à s'intéresser à ce qui se passe dans cette partie du pays?
La première des choses que je vais dire à ce niveau-là, c'est que je suis d'abord le porte-parole de cette population-là. Quand elle dénonce, moi je dois dénoncer. Je ne suis pas en dehors de mon rôle. La deuxième chose, c'est que nul n'ignore que nous n'avons pas de gouvernement. Nul n'ignore, même celui qui a parlé, il le sait. Qu'actuellement, il n'y a pas là où vous pouvez aller dans un ministère et obtenir une décision, puisque même ceux qui assument l'intérim là-bas sont interdits d'un certain nombre d'actes. La troisième des choses, les députés...
Mais là, on parle de massacres.
Oui, les députés...
C'est une urgence.
Les députés, son pouvoir se situe dans ce qu'on appelle la mise à condition de l'armée. C'est au niveau de la mise à condition de l'armée que le pouvoir du député se trouve, puisque la mise en œuvre dépend essentiellement du chef d'état-major et du commandant suprême de l'armée et de l'armée elle-même. Donc il y a des choses sur lesquelles moi comme député je ne peux pas mentir, je ne peux pas être de ceux qui ont trompé les gens pour dire je vais à Kinshasa, on va mener des opérations, parce que le député ne mènera pas des opérations, mais le député peut demander à l'armée de faire son travail. Et c'est ce que nous faisons. Et ce qui est très certain, c'est que ce n'est pas dans le micro ici que moi je vais dire bon, je demande qu'on mène des opérations, il y a un endroit où il faut le faire, et nous le faisons à l'état-major général, au ministère de la Défense, et ainsi de suite, nous le faisons. Mais en même temps, nous avons un pouvoir budgétaire pour équiper l'armée et tout le reste. Et donc, nous userons tout le pouvoir qui est à notre portée.
Quand le gouvernement sera mis en place.
Absolument, absolument. Parce que pour le moment...
Entre-temps, la population va continuer. Oui. Mais ça, c'est une urgence.
Mais il ne faut pas m'arracher dans la bouche des choses que j'ai eu à faire que je ne peux pas dire ici. Il y a des choses que les députés du Nord qui vous... Nous sommes au nombre de 47. Nous sommes un grand groupe. Nous avons mené des démarches. Si aujourd'hui ils peuvent voir des militaires sur le front, ça signifie qu'il y a des députés ici. Il y a des députés qui ont travaillé, mais ça ne vaut pas la peine de venir raconter tout ça ici et dans les réseaux sociaux, parce que comme lui-même l'a dit, c'est en travaillant sur les réseaux sociaux, en donnant la position de l'armée sur les réseaux sociaux, que l'ennemi est en train de se déplacer pour compliquer l'armée. À chaque fois que l'ennemi est identifié à tel endroit et qu'on écrit dans les réseaux sociaux, ça pose problème. Il va falloir, et c'est là que moi j'interpelle les autorités de l'état de siège, pour dire il va falloir qu'il s'établisse un mécanisme de communication qui n'est pas public, qui peut permettre à la population de dénoncer. Et quand on dénonce, qu'il y ait des preuves qu'on a dit à tel monsieur, à tel commandant, que l'ennemi est à 100 mètres de lui, le commandant tel n'a pas réagi, et voici la preuve, et ce commandant sera traduit à justice. Il va falloir que la population... Avec ces leaders en tête, puissent commencer à s'occuper de ceux qui ont les armes de la population, de la sécurité de la population, et qui refusent de les utiliser contre l'ennemi et laisser la population mourir. C'est à ce niveau peut-être que nous allons travailler. Mais quand il s'agit de dire que les députés dénoncent, oui, je dois dénoncer puisque mon peuple dénonce. Je suis son porte-parole. Mais au-delà de ça, j'ai un pouvoir, et ce pouvoir n'est pas illimité. Ce pouvoir ne va pas jusque dans la mise en mouvement de l'armée. Ce pouvoir ne va pas jusqu'à ce que moi je vais prendre des armes. Mais je peux pousser à ce que ce travail soit fait. Et c'est ce travail que nous faisons ici. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Du travail qu'on a fait au niveau de l'état-major général, qu'on a fait au ministère de la Défense. En tout cas, je connais mes limites dans ces choses. Il y a des choses que moi je ne peux pas communiquer ici. Mais je voudrais rassurer que moi comme député national... Et mes 47 collègues, qu'ils soient de Masisi, de Rutshuru, de Goma, de Butembo, de Beni, de Nyiragongo, de partout, nous tous on est unis dans cette question. Et si les autres députés attendent qu'on mette le bureau, mais nous nous réunissons tous les jours. Tous les jours on se réunit et on a des actions à mener. Et les députés du Nord qui vous sont parmi les députés les plus actifs, je voudrais rassurer à mon frère Omar que nous faisons bien le boulot. Malheureusement, nous
n'avons pas d'aller les réseaux sociaux. On a besoin de résultats sur le terrain. Achille ouais. Kiapanga, on va écouter cet autre auditeur qui appelle depuis la ville de Bukavu. Suivez-vous.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. Ce que je peux dire est que la population devrait collaborer avec les autorités afin de dénoncer et dénicher tous les assaillants qui sèment la terreur et la désolation. Car d'après tout, ces assaillants ne vivent pas dans le ciel. Pour dire qu'on ne peut pas les identifier ni les appréhender. Ils ne sont pas des électrons libres. Nous les hébergeons le matin pendant la journée dans nos maisons et la nuit, ils sortent pour aller commettre des dégâts. Bien sûr, le gouvernement a la mission régalienne de nous rétablir la paix, mais nous aussi, en tant que la population, nous devons collaborer avec l'État congolais pour notre intérêt afin de chercher la paix et non rester à crier, à se lamenter et à jeter les pierres aux autorités. Nous devons collaborer avec eux pour rétablir la paix, car la paix c'est l'apanage de tout le monde, car la paix ça émane de la contribution de tout le monde.
Mais Fachila,
moi je pense que le droit n'est pas un luxe. On a mal habité le peuple congolais à le faire croire que ce droit est un luxe pour lui. Vous même dans nos quartiers, quand le courant est là, les gens commencent à crier, le courant arrive. Les gens voient l'eau comme si c'était un mystère. Voilà comment on a appris le peuple congolais. Le peuple congolais maintenant confond ses droits à un luxe. Nous devons ôter ça des têtes des citoyens congolais.
Le droit n'est pas élixir, non. Le peuple a droit à une sécurité. C'est constitutionnel, madame. Collaborer, oui. Le peuple le fait toujours. Madame, quelqu'un qui fait 10 ans, il a vu son père être massacré, sa mère, sa tante. Vous voulez qu'il ait quelle attitude? Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut dire que le peuple d'or qui vous, c'est parmi le peuple le plus courageux du monde. À part les grands pays, peut-être l'Ukraine qu'on sort là, mais le peuple d'or qui vous, c'est parmi le peuple le plus courageux du monde. Un peuple où on tue matin, midi et soir, mais vous arrivez à Goma, vous voyez les gens, à dépit de tout ça, ils s'efforcent pour que la vie soit là. À Beni, à Oïcha, partout. Mais c'est un peuple encouragé à soutenir. Madame, imaginez-vous, quand le peuple doit aller dire aux militaires, de cette façon, on a vu l'ennemi telle part. On l'a vu telle part. On l'a vu telle part. Mais ça fait des 3-4 jours. Et on attend qu'il y ait des morts pour que l'armée réagisse. Non. Vous voulez que le peuple réagisse? Comment? Le peuple, malgré tout ça, il paie ses impôts. La DG n'est pas fermée ses portes au nord qui vous. La DG n'a pas fermé ses portes. Ça montre que le peuple contribue toujours. Et c'est ça le devoir du peuple congolais. S'il y a des ennemis, et ceux qui sont de dénoncer et de décourager, certains enfants qui étaient dans des mouvements que j'appelais Moutsanga et Kosorla, beaucoup peut-être avec l'aspect cacao, se sont mis dans ces histoires-là. Voilà pourquoi je demande au gouvernement de considérer aussi l'autorité de base. Ouais, les chefs de cellule, les chefs de quartier, vous ne les verrez même pas avec des motos là. Pas même moins de téléphone. Ce sont eux qui doivent donner l'information. Qu'on songe aussi aux autorités de base. Il faut leur doter des moyens pour que quand il y a une alerte, qu'ils aussi travaillent. Et aussi, l'ANER, tous les services de renseignement, ne nous limitons pas seulement aux faits superficiels. Non, non, je sais que vous travaillez, mais allez en fond. Et chacun doit être vigilant de son voisin. Tu as vu le fils de ton voisin qui n'a pas d'activité, hier il a payé une moto. Mais allez dire, mais c'est petit, il a la moto où il ne travaille pas, il ne travaille pas. Et c'est ça la collaboration. Donc, donnons l'information. Mais là, j'insiste aussi, madame. Des fois, quand quelqu'un part donner, livrer l'information.
Mais après, il ne faudrait pas que ça se transforme en règlement des comptes. Parce qu'on a un problème avec un voisin, on va le dénoncer.
C'est ce que je dis. Des fois, chez nous, quand vous voulez donner une information au service compétent, on vous arrête. Ça a pris un peu de l'ampleur. Là, le peuple commence à se réserver, aller livrer les informations. Vous voulez aller donner une information, on vous pointe comme premier suspect. Donc, c'est ce que j'appelle la collaboration. Il y a quand même des personnes qui sont sincères et des bandits. Celui qui a évoqué la question liée à la collaboration, je dis que le peuple du Nord Kivu collabore toujours. Il collabore à dépit de certains déchets que je demande de dénoncer et d'arrêter. En tout cas, l'aspect collaboration, là je pense que le peuple du Nord Kivu est parmi le peuple le plus courageux. Puisque la population elle-même nourrit des fois l'armée, elle-même. Vous voyez les actions que le peuple du Nord Kivu fait. Alors avec de telles actions, comment vous pouvez dire qu'il collabore? Non. Mais au contraire, il y a certaines autorités qui ont transformé la mission de l'état de siège à une mission de chercher l'argent. Alors, c'est ça aussi là où il y a le problème. Tout le monde a besoin d'argent. Mais quand vous allez entrer les jeunes dans une mission où ils auront l'argent, comment ils ne vont pas vous suivre? Or, c'est l'autorité qui doit servir d'exemple. Quand l'autorité elle-même commence déjà à aller à l'encontre de la mission, le reste sera comment, madame?
Omar Kalicia, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, je voudrais avoir votre avis par rapport à l'analyse de maître Achille Kiapanga.
Non seulement à lui et aussi aux intervenants là qui ont passé par
qui ont appelé
notre micro-baladeur. Mm-hmm. Toutefois, je soutiens la thèse du professeur par rapport aux réseaux sociaux, mais je voulais aussi parler à l'Assemblée de la République. Des fois, les questions qui se passent par réseaux sociaux, c'est fustigé par tout le monde. Et puis, ce n'est pas un comportement responsable. Mais on ne connaît pas qui est au service de l'ennemi. Mais nous, on a fait quoi pour dévier ça? C'est ça ma préoccupation. Est-ce que aussi ces informations interviennent avant que l'ennemi opère, ou bien après les opérations de l'ennemi, au moment ou bien au moment que l'ennemi est en train d'opérer? J'ai bien écouté même celui qui a fait le reportage. Vous comprenez vraiment avec amertume où ma population est en train de contribuer par taxe. Paye dans les services du régime de l'État. Mais on peut nous dire qu'il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de carburant. Mais ça, vraiment, ça touche profondément cette population. Parce qu'au même moment que la population est en train de contribuer pour le renforcement ou bien la capacitation de notre gouvernement à revenir aux rescousses de cette population paisible. Cette réponse ne nous mérite pas dans le territoire de Beni, dans la ville de Beni, à moins qu'il n'y ait pas de régie financière dans cette entité. Et je pense qu'ils doivent quand même payer les conséquences de cette réponse. La question où je voulais revenir par rapport à nos deux co-débatteurs, commençant par le professeur, moi je pense que cette thèse qui a été développé à un certain niveau, doit être capitalisé, et la source ou bien la porte d'entrée, c'est encore les députés nationaux. Parce que, à voir ce que l'ennemi est en train de faire, il se profite seulement de la faiblesse de la population, parce que nous ne sommes pas armés. Mais ayez quand même, ou bien ayez quand même les mécanismes normaux, tels que les autres ont fait dans d'autres pays. À quoi nous, vous, nos députés, et nous, comme votre population, on n'est pas en mesure de le faire parler au président de la République, à d'autres instances, qui sont censées donner cette autorisation à nos populations, tout en se préservant de ce qui peut être des dégâts, des conséquences, que cette population soit armée et qu'on soit en mesure de mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui ne cesse jamais de nous envahir.
Et vous pensez que c'est ça serait la solution à armer la population pour combattre les EDF?
Oui, parce que des fois, ils nous disent que l'armée n'est pas en mesure d'être installée à toute porte de la population. Mmh. Alors que l'ennemi, lui, profite de nos populations et l'armée est en train de jouer au niveau défensif qu'elle était au niveau offensif. Elle est en mesure d'atteindre l'ennemi partout où il peut se retrouver, mais comme c'est la façon défensive, ça signifie que pour que l'armée sente que l'ennemi est là, il faut qu'il commence à tuer la population. Et c'est à ce moment-là, quand la population est armée, une population éduquée, avec tous les conseils de nos éminents honorables.
Vous allez, ça serait faire tuer la population. Est-ce que cette population est formée?
La population est très informée, nous avons nos représentants.
Je dis, est-ce
nous
que vous êtes formé? Est-ce que cette population à qui on va remettre les armes sera en mesure de faire face ou de combattre ces EDF?
Je ne dis pas que la population est formée, mais je dis qu'il y a des thèses. Et maintenant, ces thèses, c'est le moment de les appliquer. Et on va vérifier le résultat. Parce que, en observant, on ne peut pas se dire, comme tout le monde a dit, sur les réseaux sociaux, sur même la radio ou les réseaux sociaux, c'est qu'on est en train de vivre sur terrain. Mais je vous dis que c'est plus qu'elle est supportable à une population qui a donné à un président de la République avec tous ses élus autant de pourcentages, ils doivent quand même nous payer, contrairement à ce que nous sommes en train de souffrir.
Merci Omar Kalicia, merci à Léon Maladia, voilà, qui est en train de suivre, qui suit cette émission, Mathieu Massali, merci de suivre ce magazine, vous êtes très nombreux à nous écrire sur notre page Facebook, Dialogue entre Congolais, plutôt Radio Okapi, merci à Célita Ochoudi, qui nous suit aussi, voilà, professeur. Nous sommes à la fin de notre magazine. Vous avez suivi la proposition de la société civile. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour limiter ces massacres?
Oui, la première des choses, c'est de prendre au sérieux les opérations militaires. Si on considère qu'à Beni, il y a des violences insupportables, inacceptables, je pense que la première des choses, c'est d'abord de mener des opérations sérieuse. Maintenant, ces opérations, il peut arriver qu'elles aient des problèmes. Je suis d'avis qu'il faut faire participer la population à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des renseignements, information et renseignement. Que nous soyons en mesure d'avoir un système d'information qui est tel que celui qui n'a pas agi en fonction de l'information soit poursuivi en justice. Parce que le plus souvent, ils sont dénoncés et quand vous cherchez, c'est à quel militaire on a communiqué les formations, on ne se rappelle plus c'est à qui. Mais je suis d'avis que le premier niveau de la participation de la population à sa propre sécurité, c'est organiser les systèmes de renseignement. Malheureusement, les autorités de l'état de siège ne facilitent pas cette tâche puisqu'ils sont dans le lotissement, ils sont dans des choses qui ne concernent pas la sécurité. Pourtant, ils ont remplacé les autorités politiques locales, civiles, en fonction de cette sécurité, je pense qu'à mes suivants, ils vont devoir se remettre à leur tâche. La deuxième des choses, le deuxième niveau, c'est à ce niveau-là, bon, je pense qu'il m'a aussi suivi quelque part, parce que j'ai soutenu cette thèse. Je pense que cette thèse a deux fondements légaux. Le premier fondement, c'est qu'il y a un arrêté qui autorise aux citoyens congolais de demander au ministère de l'Intérieur le port, l'autorisation des ports d'armes. Deuxième niveau de légalité, c'est qu'il y a une loi qui a été votée dans la législature passée pour la réserve de l'armée. Ces deux éléments peuvent permettre à notre gouvernement, je ne dis pas à la population elle-même, mais à notre gouvernement, de pouvoir préparer la population et à pouvoir acquérir des armes. Mais il ne s'agit pas de distribuer des armes comme des cacahuètes. Il y a plusieurs expériences. Il y a des expériences chez le voisin ougandais, il y a des expériences, je ne sais pas, au Cameroun, au Nigeria avec Boko Haram, au Tchad, et ainsi de suite. Donc nous ne serons pas les premiers à le faire, même au Mexique, contre les cartels de drogue, et ainsi de suite. Donc il y a une grande expérience. Et j'étais encore en train de rédiger mes documents pour pouvoir participer au sein du gouvernement avec ces idées, que tout de suite on m'a dit que ça éclate. Et donc, nous nourrissons ces idées-là. Nous pensons qu'il faut faire de la population un acteur de sa propre sécurité à deux niveaux, au niveau des renseignements et au niveau même de l'armée, dans les premières interventions. La population peut se défendre en attendant que l'armée arrive.
Merci, professeur Arsène Mouaka. David Wedi, depuis Kinshasa, j'encourage les jeunes manifestants de Béni, car ce sont eux qui subissent ces massacres, mais leur donner des armes pour combattre les EDF, ce n'est pas une bonne option. Maître Achille Kapanga.
On est en train de vivre la situation aujourd'hui à Goma avec le Wazalendo. Maintenant, nous comprenons même exiger que les armes se retirent de la ville. Parce que les Wazalendo utilisaient d'une manière inacceptable mais inappropriée ces armes-là. L'arme à feu, pour la porter, il faut une moindre formation et savoir comment la manier. Avec autant de conflits que nous avons au Kivu, ce n'est pas une chose à encourager directement. Puisque la petite expérience qu'on a aujourd'hui à Goma avec les Wazalendo montre déjà qu'il faut beaucoup de capacitation pour qu'on puisse remettre à quelqu'un une arme. Les élus, oui, ils se battent, on ne le refuse pas. Mais le degré de leur rôle semble ne pas être au niveau. Puisque quand il s'agit de se battre pour certains intérêts privés, émoluments, peut-être on a, quelqu'un n'a pas été, il est parti chercher son, peut-être au niveau de la CENI, il a des problèmes avec la CENI. Vous voyez comment ils sont mobilisés par rapport à ces questions. Mais quand il s'agit des questions de l'Est, il n'y a pas vraiment cette mobilisation.
On ne sent pas cet engagement des élus.
Voilà. Et quand il s'agit de leurs émoluments, leurs intérêts personnels, là, vraiment, vous sentez que tous parlent le même langage. Ils sont même prêts à tout. Mais la question de l'Est, chacun parle comme s'il est loin de la question.
Le professeur vient de nous dire qu'il tient des réunions presque tous les jours pour essayer
madame,
de se trouver,
au grand mot
faire
de,
des propositions
madame,
au gouvernement.
Au grand mot de grand remède. Au grand mot de grand remède. Il faut comprendre que le peuple meurt. Les réunions, oui, mais les actions sont où? C'est ça que vous êtes comme des élus. Où sont les actions concrètes? Réunion, c'est stratégique, mais concrètement, on voit quoi? Le peuple a besoin du concret. Le professeur a dit qu'il faut attendre le gouvernement. Non, non. Les chefs de l'État m'a dit, en attendant le nouveau gouvernement, ils se sont à faire quand ils sont là. Ils sont là. Donc, ne cherchons pas à créer des faux fuyards, non, non. Le peuple souffre, il faut des solutions immédiates et urgentes. Et je dis ceci. Je demande au co-débatteur, l'honorable Arsène Mouaka, d'aller dire à ses collègues, il y a des militaires qui ont fait 5-10 ans là-bas. Ils sont fatigués. Connaissez un peu de faire des relèves.
Mais ils ne veulent pas être permutés.
Mais, dans l'armée, le premier principe, c'est la discipline. Comment un militaire peut refuser d'être permuté? C'est qu'il n'est pas militaire. Donc, il y a des gens qui ont fait 5-10 ans là-bas. Mais pourquoi les laisser là-bas? Il est grand temps quand même qu'on amène de nouvelles figures. Et de trois, madame, cette partie-là, la RDC a 145 territoires. Mais le territoire de Béni, c'est même pas un secteur qui est touché. Mais si, qu'est-ce qui manque à notre armée pour qu'on mette les moyens pour qu'on puisse nettoyer cette brousse-là? Il faut quoi? On a vu ça avec Mamadou, avec Bahouma, c'est la même armée. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas refaire les mêmes exploits pour mettre fin à tout cela? Quand même, ce n'est pas toute la province qui est à France, c'est une partie du territoire de Béni.
Et si notre armée vraiment était prête, même avec 4-5 bataillons, avec des moyens sophistiqués, on peut facilement nettoyer cette brousse-là. Donc, que la volonté soit aussi là pour accompagner les opérations. C'est très important, madame.
Merci, maître Achille Kiapanga. Omar Kalissia, votre conclusion.
Oui, madame, pour nous, la conclusion, je soutiens d'abord l'intervention de maître Achille Kapanga, qui dit que la population a beaucoup souffert et la solution, c'est une intervention urgente. Et c'est ça notre demande. Mais toutefois, je voulais encore un simple peu de contribuer dans ce que nous sommes en train de vivre sur terre.
Allez-y très rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Moi, je suis en train d'appeler tout le monde du territoire de Beni, de la ville de Beni, même la province du Nord Kivu, c'est le moment de faire l'unité. Parce qu'il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle, ce que nous sommes en train de vivre dans l'état de siège. Il n'y avait pas de dispositifs, des ordonnances, de lois qui ont accompagné ces institutions. Les maires de ville, l'administrateur, sont des colonels. Le commandant axe général, à quel niveau un maire de ville peut donner instruction à un général? Je ne suis pas militaire. Le gouverneur de province est général, mais il n'est pas commandant des opérations dans sa province. Ce sont des choses qu'il fallait qu'on recadre au niveau même de l'Assemblée nationale. Je finis par dire, madame, il faut qu'il y ait déclenchement des opérations, mais le souci aussi, il faut qu'on comprenne. Tous ceux qui sont ici, ils n'ont pas de défis, oui, mais aussi ils peuvent avoir aussi des irrégularités. Ils doivent partir et laisser un seul général commander et laisser avec d'autres militaires. De lui seul, il peut donner une instruction si réellement il leur revêtit de l'idée de la patrie congolaise.
Merci.
Et que les colonels vont s'adhérer à...
Merci Omar Kalissia. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.